Jean-Marie Pelt, vous avez été invité pour intervenir ce matin. Alors, à ce colloque, comment l'avez-vous trouvé tout d'abord ce colloque?
Alors, je trouve intéressant d'abord par la qualité de l'accueil qui nous a été réservé, c'est pas toujours le cas. On nous a pris en charge à l'entrée, on s'est occupé de nous. C'est très important, l'accueil, quand on parle de spiritualité, ou la définition même de la spiritualité, c'est d'aller au-delà de soi-même, vers les autres. Ça peut être une spiritualité laïque, mais les autres sont là et pas seulement moi-je. Ou une spiritualité religieuse, et là l'autre c'est aussi Dieu avec un grand A. Donc cette atmosphère très chaleureuse, très conviviale, je veux dire, m'a beaucoup touché.
Alors, l'environnement, la spiritualité, c'est l'avenir. L'environnement, c'est un sujet brûlant, j'allais dire.
C'est-à-dire que où on raisonne en fonction de soi-même, de ses intérêts, de ses désirs, de ses pulsions, sans trop regarder où on met les pieds, en écrasant les voisins sans les voir, dans un esprit vigoureusement compétitif, ou en écrasant la nature aussi, comme on l'a fait depuis des siècles. Pratiquement depuis la révolution industrielle, on n'est pas précautionneux de la nature. Alors si on fait ça, il est clair qu'on évolue dans un matérialisme épais, consumériste et destructeur. Si au contraire on se met à l'écoute des grandes spiritualités du monde, ce qu'ont dit les très grands qui ont fondé les religions, alors on s'aperçoit d'abord que tout a été dit. Sur les rapports que nous devrions entretenir avec la nature, parce que nous sommes dedans et pas dehors, parce que nous ne pouvons pas nous en passer, alors qu'elle peut se passer de nous, et que par conséquent nous sommes non pas les maîtres, mais nous sommes les usufruitiers de quelque chose qui nous dépasse et qui est effectivement la nature. Et là apparaît une éthique différente, avec des valeurs différentes, des valeurs de spiritualité, de solidarité, de justice, d'équité, de respect des autres, de paix. Et toutes ces valeurs sont portées à la fois par les grandes spiritualités du monde et aussi par ce concept riche, bien qu'un peu flou, de développement durable.
Alors, vous qui défendez le végétal, hein, que pensez-vous des nouvelles molécules d'ingénierie?
Alors là, je suis intéressé et prudent. Je pense qu'il y a des différentes manières de traiter le végétal. J'aime bien ce que font mes collègues de Nancy qui arrivent à traire les racines des plantes pour en extraire des alcaloïdes. Je trouve ça bien. On fait travailler la plante comme pâture la vache et elle nous donne ce qu'elle a fabriqué et que nous pouvons utiliser. Alors ça, c'est ce que j'appellerais les méthodes douces. Alors il y a des méthodes plus dures qui touchent cette fois-ci, par exemple, les OGM ou certains types d'approches des OGM, où on est parti du point de vue que nous sommes les maîtres absolus de la nature, que nous la transformons comme nous voulons, que nous faisons ce que nous voulons, que nous croisons le génome d'un chien avec, je sais pas, le gène du coquelicot, enfin tout, on peut tout imaginer. Et dans ce double point, on peut tout imaginer. Là, je ne suis pas d'accord du tout. On ne peut pas tout imaginer, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des limites. Au-delà des limites, c'est la démesure. Au-delà des limites, c'est l'homme prométhéen, qui a été lourdement condamné, c'est le cas de Prométhée des Grecs, qui a été lourdement condamné parce qu'il s'était pris pour Dieu. Et il ne faut pas que l'homme se prenne pour Dieu, parce que l'homme n'est pas Dieu.
Alors, les OGM, d'un certain côté, c'est mauvais, et de l'autre, c'est bon pour la médecine, notamment, je pense, à l'insuline.
Oui, alors ça c'est tout à fait autre chose, parce que là on fait travailler des bactéries sur un terrain qui est le leur, parce que les bactéries font l'échange des gènes naturellement, donc on ne dérange pas, disons, un ordre naturel préexistant, et je trouve que cette approche enfermanteur, où on peut arrêter l'expérience s'il y a un problème, où ça ne se dissémine pas dans l'environnement, ne pose à mes yeux aucun problème du tout. Mais l'approche extrême inverse, où l'on se sent tout à fait autorisé à modifier profondément des plantes, à les relancer dans la nature, il y aura donc des contaminations, il y aura des échanges, la nature va se modifier, et là, plus personne n'est maître de rien. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte de Pandore, donc là, il faut être extrêmement prudent.
Il y a le problème aussi Monsanto. Qu'en pensez-vous?
Alors ça, c'est encore autre chose. Alors c'est ce que j'appelle les dérives du capitalisme qu'on voit très bien à l'heure actuelle, c'est un désir de pouvoir sans fin. Bon, l'objectif de Monsanto, c'est de nourrir la planète entière. Eh ben, je ne suis pas d'accord du tout. Je trouve que la planète doit être nourrie par des productions correspondantes aux régions, aux cultures, aux traditions, que chaque pays doit aboutir à un maximum d'autonomie alimentaire, que ça n'est pas du tout la mission d'une multinationale, si prestigieuse et puissante soit-elle, parce que sinon, qui nourrit le monde est le maître du monde, et on ne crache pas dans la main qui vous nourrit. Donc moi je ne suis pas prêt de donner tous les pouvoirs à une multinationale, pas du tout prêt.
Dernière question, un mot sur le Grenelle de l'environnement, qu'en pensez-vous ?
Eh ben, c'était très bien. C'était très bien parce qu'on représentait tous les intérêts, disons, économiques, environnementaux. On a dialogué, il n'y avait pas de langue de bois. Est-ce que je peux risquer cette idée que, à la fin, toutes les petites discussions entre les uns et les autres ont montré qu'on était devenu capable de s'aimer, de se respecter? C'était très beau. C'était l'image que je me fais de ce que devrait devenir la démocratie. Plus des affrontements constants, plus les petites phrases qui font mal, plus la descente de l'adversaire, plus ces mots cruels que sont les batailles, les campagnes, les ripostes, les reculs, tous ces mots qui donnent l'impression qu'on est en guerre. Non, la démocratie, c'est la recherche de consensus, c'est une démarche paisible, et c'est ce qu'on a eu au Grenelle. Alors maintenant, je touche du bois pour que le Parlement ne démonte pas tout ce qu'on a fait, ce qui serait évidemment désolant.
Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir sur le plan environnemental ?
Ben, je crois que nous sommes à un tournant. Alors vous me direz qu'on est toujours à un tournant de l'histoire, c'est bien vrai, mais le tournant actuellement est crucial parce que on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle, on voit bien qu'il y a des problèmes graves au sein d'un capitalisme que plus personne ne maîtrise et qui est puni d'avoir fait n'importe quoi, parce qu'on a fait n'importe quoi. On a laissé faire des petits malins, n'est-ce pas, qui ont joué à des milliards de dollars, enfin, tout ça est fou. Tout ça est fou, et tout ça doit être régulé d'une manière stricte, et pas la liberté absolue de faire n'importe quoi, pas la liberté de devenir milliardaire en 5 ans. C'est profondément choquant. Autrefois, il fallait des générations. Bon, alors je pense que ce changement qui se passe maintenant avec la recherche d'un autre type de développement qu'on appelle durable, c'est un changement profond de culture, et je pense que ça sous-tend en fait un changement de civilisation, c'est-à-dire que nous sortons de l'ère industrielle, telle qu'on l'a connue depuis 2 siècles. À un moment donné, il y a 10 000 ans, on a commencé l'ère de l'agriculture, il y a 200 ans, on a commencé l'ère de l'industrie, et maintenant, on va aller vers une nouvelle ère, et peut-être qu'on la définira plus seulement en termes économiques, mais aussi en termes éthiques, en termes moraux, et moi, je rêve toujours que ça s'appelle la civilisation de l'amour.
Merci Jean-Marie Pelt.
Voilà, merci beaucoup.